RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
L'émission en français.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission en français sur Radio Exterior d'Espagne.
Aujourd'hui, nous vous proposons de rester la tête dans les nuages.
Donc cette essence pure de nuages que je récolte, elle va s'apparenter à du miel, cet effet un peu visqueux. Et ces différentes essences de nuages, je vais pouvoir en prélever quelques grammes qui vont être remis dans des cuves, donc dans des aquariums scellés, fermés. Ces quelques grammes vont se disperser dans l'aquarium. Et ensuite, par le biais d'un dispositif électronique que je fabrique, je peux faire réapparaître et disparaître le nuage à volonté dans cet environnement.
Marie-Luce Nadal est une artiste française qui crée des œuvres d'art tout à fait particulières. Ni des peintures, ni des sculptures, Marie-Luce Nadal crée des nuages qu'elle enferme à l'intérieur de récipients. Les masses gazeuses qu'elle enferme interagissent avec d'autres éléments et donnent comme résultat des créations originales qui défient la notion d'œuvre d'art.
Vous écoutez les musiciens des années 70 de jazz, Jill Scott Heron. Ceci s'appelle « The Revolution Will Not Be Televised ». La révolution ne sera pas télévisée. À la technique, Juan Morillo et au micro et dans vos oreilles, Inés Azagrin et Guillermo Bravo. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Au Proche-Orient, l'offensive de l'armée israélienne sur la bande de Gaza s'intensifie.
Des chars blindés et des colonnes d'infanterie avancent sur le territoire occupé. D'après les derniers renseignements, ces dernières seraient proches de la ville de Gaza. Les porte-parole de l'armée israélienne affirment avoir frappé 600 objectifs dans les dernières heures. Parmi les cibles, un communiqué de l'armée liste des dépôts d'armes, des dizaines de positions de lancement de missiles anti-chars, ainsi que des caches utilisées par l'organisation terroriste du Hamas.
L'entrée dans une nouvelle phase, selon les autorités militaires israéliennes, a provoqué l'escalade du conflit. La demi-lune rouge homologue de la Croix-Rouge dans les pays musulmans annoncé que l'Israël a réalisé plusieurs attaques près de l'hôpital Al-Qad, un centre sanitaire qu'il avait demandé d'évacuer seulement quelques heures avant. Selon les rapports, il y aurait 14 000 personnes réfugiées là-bas et plus de 800 blessés dans un état qui ne permet pas leur déplacement.
Plusieurs camions avec de l'aide humanitaire sont arrivés à Gaza pendant ce week-end. 30 camions sont entrés en début de week-end et 60 autres l'ont fait à la fin par le passage de Rafah. Ce dernier serait le plus grand convoi humanitaire arrivé dans la bande depuis le début des affrontements.
En Colombie, les élections régionales freinent la vague de changements impulsés par l'élection de Gustavo Petro en août de l'année dernière.
Les candidats provenant de la politique la plus traditionnelle ont remporté l'élection dans les principales provinces et gouvernances. Carlos Fernando Galán remporte l'élection à Bogota et lidère cette vague de changement.
Es muy muy importante porque no podemos permitir que la gente en cierta forma deje en manos de otros lo que es el futuro de esta ciudad. Todos tenemos una voz, todos tenemos que expresarla, todos tenemos el derecho a hacerla. Mucha gente ha sufrido en este país para que podamos votar.
Le candidat a affirmé que les gens avaient délaissé la responsabilité de choisir ce qu'il faut faire dans cette ville et il a souligné l'importance de ce rendez-vous électoral pour le futur de tout le pays. Federico Gutiérrez, qui avait échoué lors de sa carrière présidentielle, a remporté la mairie de Medellín.
Yo estoy convencido que estas elecciones regionales son muy importantes. Colombia hablará. Colombia no va por buen camino, que necesita un verdadero cambio. Será importante ese equilibrio regional que se dará desde las regiones, desde las ciudades.
Selon lui, ces élections servaient aux personnes pour manifester que la Colombie ne va pas bien. Et il soulignait également l'importance de ce procès électoral.
Esperamos en el día de hoy la tranquilidad, la calma ante los resultados, cualesquiera que sean en todos los municipios del país. Si hay algún tipo de inconformidad, le pedimos a la ciudadanía calma para que la decisión soberana del pueblo sea la que rija en Colombia.
Le président Gustavo Petro a dû lancer un message à la nation avant les élections car les votations à Ricaurte et Santiago ont été suspendues par des affrontements entre individus, vandalisme et dénonciations pour fraude. Dans son message, Petro demandait aux manifestants de respecter la volonté populaire, quelle que soit. À la République démocratique du Congo, presque 7 millions de déplacés internes protagonisent un des drames humanitaires les plus importants en Afrique.
Un nombre record de 6,9 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur de la République démocratique du Congo, en raison notamment du regain des violences dans l'est du pays, a indiqué l'ONU lundi.
Les combats se sont intensifiés depuis début octobre au nord de Goma, la capitale provençale de Nord Kivu, entre la rébellion du M23 d'une part, l'armée de la RDC et des groupes armés dits « patriotes » entre guillemets d'autre part. Dans son communiqué, l'Organisation internationale pour les migrations souligne qu'une grande majorité des déplacés a besoin d'aide humanitaire.
La résurgence fin 2021 du M23, le mouvement du 23 de mars, une rébellion soutenue par le Rwanda voisin, selon de nombreuses sources, a provoqué dans le Nord Kivu le déplacement de centaines de milliers de personnes et aggravé une crise humanitaire quasi permanente dans l'est de la République démocratique du Congo depuis près de 30 ans.
L'annuaire L'Espagnol dans le monde 2023 est un rapport annuel qui donne les dernières informations actualisées sur la présence de l'espagnol au niveau international et qui détaille la situation spécifique de notre langue dans 5 pays chaque fois. Pour cette occasion, ces derniers étaient la Thaïlande, le Portugal, l'Ukraine, la République démocratique du Congo et l'Iran. Les personnes intervenantes lors de la présentation du rapport étaient...
Cette présentation, qui s'est tenue le lundi 30 octobre, comptait avec la présence de Luis García Montero, directeur de l'Institut Cervantes, Carmen Pastor Villalba, directrice académique de l'Institut Cervantes et María Luz Esteban Saiz, directrice du Centre de normalisation linguistique de la langue des signes espagnole.
Cette 24e édition de l'annuaire de Cervantes a été particulièrement inclusive en donnant une place centrale aux langues de signes et au braille pour essayer de mettre l'attention sur les personnes qui ont plus de difficultés pour accéder aux différentes formes d'expression de la langue comme les aveugles, les sourds ou encore les personnes dyslexiques. Le ministre des Affaires étrangères José Manuel Álvarez a clôturé l'acte avec un discours. Le football français est sous le choc et sous une forte pression après les graves incidents ayant entraîné l'annulation du match Lyon dimanche. Le gouvernement pointant du doigt lundi la responsabilité des clubs et de la Ligue.
L'attaque du car transportant l'équipe de l'Olympique de Lyon vers le stade Vélodrome à Marseille, dans laquelle l'entraîneur de l'Olympique de Lyon, Fabio Grosso, a été blessé, a entraîné dimanche le report du match et la consternation des acteurs du football français.
Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, devrait remporter son 8e Ballon d'Or lundi, à moins que Kylian Mbappé et Erling Haaland créent la surprise, alors que l'Espagnol Aitana Bonmatí est la grande favorite de la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. La joueuse de Football Club Barcelone a remporté la Ligue des Champions la saison passée, en plus de la Coupe du Monde avec la sélection espagnole cette année. Le Ballon d'Or serait la façon parfaite de boucler une année dorée pour la joueuse espagnole. D'ailleurs, ce serait le 2e Ballon d'Or féminin espagnol après celui de Alexia Putellas.
Esa posibilidad y esa esa espontaneidad, y yo le pregunté pese a todo, y ella me dijo que vale.
No voy a dimitir, no voy a dimitir.
L'ancien président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, a été suspendu lundi de toute activité liée au football au niveau national et international pour 3 ans par la FIFA, la Fédération internationale de football, dans le cadre de l'affaire du baiser forcé après le sacre mondial de la sélection féminine espagnole.
About my resignation, yes, I'm going to do. Yes, because I cannot continue my work.
Dans une interview, lui-même reconnaissait qu'il ne pouvait plus poursuivre son travail et maintenant, une sanction officielle de la Fédération internationale du football le correspond.
Estimados oyentes de Radio Exterior de España, si quieren enviar un informe de recepción o reporte de escucha, hágalo al siguiente correo electrónico: secretariatecnica.ree@rtve.es. Repetimos: secretariatecnica.ree@rtve.es. Chers auditeurs de Radio Exterior de España, si vous souhaitez envoyer un rapport de réception ou un rapport d'écoute, faites-le à l'email suivant: secretariatecnica.ree@rtve.es. Nous répétons: secretariatecnica.ree@rtve.es.
Art Situations est un programme créé par l'homme d'affaires catalan Marcel Pascual et Pilar Forcada, sa femme décédée, pour promouvoir l'art et les artistes émergents. Toutes les années, on choisit un pays invité et cette année, 5 artistes français et 5 artistes espagnols conforment l'exposition qui est maintenant visible à Barcelone mais qui tournera dans plusieurs villes de France. Marie-Luz Nadal est une des artistes françaises et elle a créé des nuages qui l'enferment dans des récipients transparents. Nous écoutons l'interview avec elle. Bonjour Madame Nadal, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors, ma première question est, peut-on capturer un nuage ?
Alors, excellente question. Oui, on peut capturer des nuages. Je capture moi-même des nuages depuis maintenant une petite dizaine d'années, grâce à une œuvre qui s'appelle la fabrique du vaporeux. Et c'est une machine qui me permet d'extraire dans l'eau de pluie et dans l'air tous les aérosols, c'est-à-dire toutes les imperfections qui s'y logent et que je vais ensuite, ou plutôt que la machine va pouvoir transformer en essence pure de nuages. Mmh. Donc j'ai comme ça différents millésimes de nuages.
Oui, et bon, nous on est dans la radio en ce moment, donc on n'a que le son. Et c'est pour ça que je voudrais savoir comment expliqueriez-vous le procès que vous réalisez pour enfermer des petites brumes ou des nuages dans les récipients, dans lesquels ils sont visibles à nos auditeurs qui ne peuvent pas le voir.
Oui, alors c'est très simple. Donc cette essence pure de nuages que je récolte, elle va s'apparenter à du miel, différents types de miel hein, qui pourraient venir de forêts ou de champs de lavande, disons, avec ces différentes couleurs, et cet effet un peu visqueux. Et ces différentes essences de nuages, je vais pouvoir en prélever quelques grammes qui vont être remis dans des cuves, donc dans des aquariums scellés, fermés. Ces quelques grammes vont se disperser dans l'aquarium. Et ensuite, par le biais d'un dispositif électronique que je fabrique, je peux faire réapparaître et disparaître le nuage à volonté dans cet environnement.
Et cette technique, est-ce que c'est vous qui l'avez développée ou est-ce que vous vous êtes inspiré du travail d'autres personnes?
Non, alors c'est moi qui ai développé ce procédé et cette œuvre qui vient aussi de toute une obsession qui est plutôt une obsession familiale, puisque mon grand-père était déjà, en tant qu'agriculteur, très intéressé par les nuages et surtout par la menace que pouvaient produire les nuages. Alors, c'était un sujet très important dans la famille.
Donc, vous avez donné, on peut dire, une nouvelle perspective à tout le travail de votre grand-père avec les nuages, mais en le mettant dans un contexte artistique, non? C'est très intéressant.
Non, merci. Oui, effectivement, le contexte dans lequel mon grand-père évoluait avec les nuages, collaborer avec les nuages, avait plutôt pour vocation de servir son activité qui était celle d'un agriculteur. Moi, ce qui m'intéresse avec ces projets-là, c'est à la fois de créer des objets, des œuvres qui ont une valeur esthétique et poétique, mais aussi, elles me permettent aussi de comprendre, de saisir les subtilités, les différentes subtilités des nuages qui me fascinent.
Et bon, passons à penser un peu à quoi ressemblent vos œuvres, Marie-Luce Nadal, pour mettre un peu en situation les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas eu la chance de les voir encore. C'est des petits récipients, non? Je ne sais pas exactement de quelle taille, mais une trentaine de centimètres de haut peut-être?
Alors, il y a différentes tailles. Pour chacun des millésimes de nuages que j'ai récoltés à travers le monde, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la première machine est exposé, je vais pouvoir récolter cette essence pure de nuages. Et donc, chacune de ces essences va me permettre de faire une nouvelle œuvre. Les tailles varient entre 10 cm jusqu'à 2 mètres aujourd'hui de haut.
C'est grand, 2 mètres, hein? C'est des
gros. Oui, c'est grand.
Et il me semble qu'il y a aussi des pierres à l'intérieur, non, de ces récipients.
Alors, il va y avoir, comme différentes propositions, différentes œuvres qui sont faites et parfois certaines amènent des interactions, proposent des interactions entre, avec d'autres matériaux qui ont pour moi une signification, qu'elle soit poétique, esthétique ou même chimique. Et effectivement, certaines œuvres sont en lien avec des roches, d'autres avec des métaux, parfois simplement avec un peu de sable, ça va dépendre en fait des œuvres.
Oui, mais c'est des éléments qui réagissent, non, et qui sont en interconnexion un peu avec les brumes et les nuages, non?
Exactement, oui.
Oui. Et justement, d'après tout ce qu'on vient de parler, on voit qu'il y a un composant très important de scientifique dans votre œuvre. Il y a le développement d'une technique que je ne la connais pas exactement, mais on la voit quand même assez compliquée. Donc, ça nous ramène un peu sur le terrain du débat entre science et art, qui, en principe, pour la plupart des gens, sont deux disciplines assez irréconciliables ou qui difficilement peuvent être mises dans le même objet. Mais je vois que dans votre œuvre, elle s'allie très naturellement et l'une permet de créer l'autre. Donc, je vous demande à vous, est-ce que vous pensez que la science et l'art peuvent vraiment aller de la main?
Alors oui, moi forcément, je pense que je dirais que je suis même sûre que la science et l'art sont faites pour aller ensemble. Je pense que l'une comme l'autre ont la même volonté, qui est de venir apporter quelque chose au savoir humain, à la compréhension de la nature, que cette chose qui soit apportée soit là une forme de vérité scientifique ou de vérité de la matière ou une forme de vérité poétique ou vérité existentielle. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense que oui, c'est de l'art et la science, c'est les raisons de s'accorder ensemble.
Et bon, les œuvres que vous avez choisies, bon, c'est que plutôt la commissaire Chus Martinez a choisi, ont été choisies justement pour répondre aux besoins ou aux éléments identitaires de Art Situations. Donc, je vais vous demander pourquoi est-ce que vous pensez que Chus Martinez a choisi les œuvres qu'il a choisies et est-ce que vous êtes d'accord avec son choix?
Alors oui, bien sûr, je suis d'accord avec son choix et je la remercie d'ailleurs de m'avoir invité à participer à Art Situations. Les pièces qu'elle a choisies sont des machines, toute une série de machines. Je ne fais pas que des machines, mais c'est une très grosse partie de mon travail. Les pièces qui sont montrées sont des machines qui vont permettre de récolter des éléments de la nature et de pouvoir, pour un temps, ou pour toujours, les piéger ou les capturer dans des petits flacons. Donc c'est le cas avec les projets que je viens de vous décrire qui sont des captures ou des récoltes d'essence pure de nuages, puis de nuages. Mais il y a aussi toute une autre partie de mon travail qui est montrée grâce avec Art Situations, qui était un travail sur la récolte des coups de foudre. Et cette récolte des coups de foudre se passe à travers, donc encore une fois, une œuvre qui est une machine, qui est un extracteur de foudre portatif. Cet extracteur de foudre portatif est un sac à dos que vous pouvez donc porter sur le dos et qui va vous permettre, grâce à une sorte de canne à pêche, de vous connecter au ciel jusqu'à faire apparaître l'étincelle. Et cette étincelle féconde qui crée et qui peut produire des fameux coups de foudre.
J'imagine que ceci aussi vient un peu de famille, non? Parce que si les nuages préoccupaient votre grand-père, j'imagine que les coups de foudre aussi, non? En tant que personne qui...
Oui, je ne sais pas si ça le préoccupait autant. Les coups de foudre, en fait, ce qui m'intéresse aussi avec l'idée même du coup de foudre, c'est sa valeur... la compréhension scientifique que l'on peut en avoir, mais ici aussi la valeur des mots, et notamment des mots en français, puisqu'on sait que coup de foudre, en français, contrairement peut-être à l'anglais, love at first sight, veut dire à la fois tomber amoureux, ou se prendre une décharge électrique amoureuse, et être touché par l'élément naturel électrique. Et donc, c'est sur cette dualité, sur ce double sens que j'aime jouer aussi dans mon travail.
C'est une belle façon de le voir. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ce deuxième sens de coup de foudre. C'est vrai qu'en le disant, j'y ai pensé, mais je n'avais pas pensé à la relation. Mais c'est très intéressant comme signification. Et passons plus au monde de l'art en général. Je voulais vous demander, en tant qu'artiste émergente, est-ce que vous pensez qu'on donne suffisamment d'opportunités aux artistes qui ne sont pas peut-être les plus médiatiques, mais qui ont des propositions comme la vôtre, qui sont intéressantes, qui sont originales? Et est-ce que vous pensez que ce genre d'exposition comme Art Situations ou de projets sont nécessaires pour le développement et pour l'émergence justement d'autres artistes?
Oui, tout à fait. Je pense que les initiatives comme celle d'Art Situations sont vraiment indispensables pour la création artistique et la création contemporaine qui n'a pas toujours la capacité de trouver sa place sur un marché de l'art, mais peut-être parce qu'elle est justement peut-être décalée par rapport au marché, et je pense que aussi de ces œuvres, des objets importants, des choses importantes à voir et à toucher aussi, des objets à prendre, à user.
Et est-ce que vos œuvres sont en vente?
Oui, elles sont en vente, oui.
Et pour que les gens puissent savoir, au cas où ça intéressait à quelqu'un, pour voilà, qu'ils s'informent et puissent les voir, et éventuellement, si ça leur plaît, bah, les acheter, où est-ce qu'on peut voir l'intégrité de ton œuvre et savoir lesquelles sont en vente?
Alors, vous pouvez voir, peut-être pas l'intégralité de mon œuvre, mais une très grosse partie de mon œuvre sur mon site internet, marie-luce-nadal.com. Sur Instagram aussi. Et puis dans l'exposition d'Articulation qui se trouve en ce moment à Barcelone. Et puis dans, vous pouvez aussi suivre l'actualité qui est donnée sur mon site dès que j'y pense et dès que je peux, dès que j'ai le temps.
Oui, et bon, je voulais terminer avec votre impression sur le programme Art Situations, qui est un programme qui a mis en commun vous et quatre autres artistes français avec cinq artistes espagnols. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de vous retrouver, parce que je sais que vous avez exposé à la dernière foire de Arco. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de tous vous retrouver, vous connaître, et je voulais savoir surtout... quel a été l'apprentissage ou quelles sont les choses positives que vous avez sorties de ce programme de partage franco-espagnol?
Alors, ce qui était formidable, c'est justement de pouvoir rencontrer d'autres artistes émergents venant d'autres pays. On n'a malheureusement pas encore eu la chance de tous se rencontrer. Mais pour ma part, ayant participé déjà aux deux premières expositions, en venant installer et en étant là au vernissage, j'ai pu rencontrer une grande partie des artistes espagnols.
Mmh. Et comment a été cette expérience de partage? Est-ce que vous pensez que c'était positif? Est-ce que vous avez pu sentir que vous connaissiez un petit peu mieux ce qui se fait en Espagne ou peut-être pas du tout?
J'ai eu surtout l'impression de rencontrer des personnes et des personnalités et avec ça, du coup, rencontrer leur œuvre, avoir la chance d'avoir le temps, de prendre le temps de rencontrer leur œuvre et de les entendre parler de leur travail. Mmh. J'ai du mal à percevoir une véritable différence, qui est une différence culturelle nationale.
Mmh. Oui, c'est
parce
vrai qu'on
partage aujourd'hui tous une même culture.
Oui, au moins des deux côtés des Pyrénées.
Bon, oui, voilà. Je pense qu'on a, en tout cas, on est dans une histoire assez proche entre l'Espagne et la France. En tout cas, pour ma part, venant du sud de la France et venant de Catalogne, mmh. une histoire assez proche à la fois mmh. des Français comme des Espagnols, mais en même temps, voilà, ce qui ressort surtout, c'est des individualités intéressantes et généreuses.
Mmh. En tout cas, on espère vous réavoir très bientôt en Espagne. J'espère que pour une exposition individuelle. Et comme ça, les personnes intéressées dans le monde de l'art ici en Espagne pourront connaître un petit peu mieux l'œuvre de Marie-Luz Nadal et éventuellement que ça devienne un phénomène, on ne sait jamais. Merci beaucoup pour votre temps. Et depuis l'émission en français, on vous souhaite la meilleure continuation de toutes et bon courage pour la suite.
Merci beaucoup.
Merci. À la prochaine.
Aujourd'hui, merci de rester à l'écoute. Merci Guillet pour cette rencontre, pour cette interview à l'artiste Marie-Luz Nadal. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur vos plateformes d'audio préférées et à très bientôt.
Rendez-vous jeudi à la même heure de toujours et pour une interview avec le musicien espagnol Ignacio Plaza Ponce qui nous présente en exclusivité son dernier travail, un album intitulé Arrullos. Rappelez-vous que vous pouvez envoyer vos messages vocaux pour nous envoyer n'importe quel message au 686 88 698. À la prochaine.
On vous laisse avec la chanson Glory Box de Portishead.
been a temptress too long.